À la toute fin de l'année 2020, Alternante FM était chez Denis Péan de l'Audio pour évoquer Transe de Papier, le nouvel album du groupe. Une conversation rythmée par le crépitement d'un feu de bois et proposée par Didier Houd.
Est-ce qu'on peut parler de musique ? Je crains que ce ne soit pas vraiment facile. C'est vrai qu'on devrait savoir, puisqu'on l'a fait comme on l'a fait, mais il se trouve qu'on ne le sait pas. Parce que justement, tous les moments où on trouve quelque chose qui reste sur un disque, ça nous échappe. Et ça disparaîtrait si ce n'était pas gardé dans un accord, si ce n'était pas gardé dans quelques mots. Donc voilà, c'est ce qui reste d'une époque qui s'est évanouie totalement. Quelques mots, quelques notes, quelques chansons.
C'est Kent qui me disait il y a quelques années de cela qu'à partir du moment où un disque était sorti, ce disque, il avait le sentiment qu'il ne lui appartenait plus.
Oui, alors je ne sais pas s'il y a des gens qui aiment écouter leurs disques ou s'il y a des gens qui sont fans d'eux-mêmes, hein, au point d'écouter leurs disques tous les jours. Moi, ce n'est pas exactement mon cas. Et puis, il y a un disque qui pousse derrière un autre, en fait. Puis un disque, c'est jamais que... un moment, et la musique pour nous... elle continue toute la vie, donc elle ne s'arrête pas parce qu'un disque est sorti, qu'il est vendu et qu'on fait un article dessus. Pour moi aujourd'hui c'est quasiment identique à l'année que j'ai passé à faire un disque, puisque je suis en train d'en refaire un autre.
C'est amusant parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, là, que je suis venu vous interviewer, c'était pour Phonetic Flowers et je me rappelle que vous me disiez que là il y avait des chansons qui étaient déjà prêtes et que vous aviez envie d'enregistrer un nouveau disque.
Je me souviens exactement, votre visite était dans un petit local, dans la dernière demeure collective de l'Ojo, lieu de résidence légendaire. Qui a accueilli beaucoup de gens, beaucoup de musiciens du monde entier, et j'étais en train de faire Séoul. J'étais en train de composer cette valse. À chaque enregistrement, je fais une valse. Pourquoi ? Qu'est-ce qui me tient à la valse ? Peut-être que mon premier souvenir musical, c'est l'orchestre de bal populaire du village. Ce qui m'attache à la valse, peut-être ces magnifiques valses de Chopin. Peut-être n'a-t-on rien inventé en mélodie de valse depuis ce temps, ni en rythme de valse. Gus Wieser, le Sega longtemps, l'île de la Réunion. J'écoutais aussi ces jours-ci quelque chose de magnifique, les quadrilles de Grande Terre, de Guadeloupe. Et ce rythme ternaire qui n'a pas de fin quelque part, qui est une transe, en fin de compte.
Jesus Power. tightrope walker. Monday's blue, Friday's a rose. Friday rose, Tuesday's punk. The Almighty Jesus Paro.
C'est un album que vous avez enregistré à plusieurs endroits. Le studio Nomade de l'Audio, vous l'avez enregistré également pas très loin d'ici, à Segré, je crois, à studio Black Box. Vous êtes allé outre-Manche, vous êtes allé dans des studios qui sont légendaires, hein, les studios de Real World. Les studios créés par Peter Gabriel à Box, c'est une petite ville qui est à côté de Bath dans la campagne. On est au sud-ouest de l'Angleterre. Ce sont des studios légendaires parce que ce sont des endroits où évidemment Peter Gabriel a enregistré, Nusrat Fateh Ali Khan également, Geoffrey Auriemma. Pourquoi être allé en Angleterre travailler cet album, hein?
Bah, il se trouve que dans toute l'Europe, dans tout le monde, il y a un pays avec lequel on a beaucoup de proximité affective et musicale, c'est l'Angleterre. D'amis, des relations professionnelles aussi, hein. Puisqu'on a joué dans ce fameux festival itinérant, grand festival nomade qui s'appelle le WOMAD Festival, qui nous a amené à Singapour et puis en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Seattle aux États-Unis et encore ailleurs. Et cet endroit où se trouve le studio Real World, c'est le siège aussi de ce festival WOMAD. Et j'écoutais ces jours-ci un DJ exhumé, puisque j'ai un petit peu le temps dans cette situation qui nous voue un peu à la solitude. Les orchestres de souffleurs de bambou des îles Solomon. Et ça, j'ai connu avec le WOMAD Festival. Après, j'ai écouté une autre bizarrerie aussi qui venait de très loin, je ne me rappelle plus, mais aussi que j'ai connu dans le WOMAD Festival. Donc il y a ces gens qui sont des chercheurs, qui sont des ethnomusicologues ou simplement des amateurs de musique, des passionnés de son, d'humains, qui ont collecté à travers le monde des musiques et les ont enregistrées. Donc c'est un haut lieu de musique. Il y a aussi ce disque superbe là, des chœurs de Cuba, etc. etc. Bon, il y a beaucoup de choses. Donc on a enregistré là-bas avec nos amis anglais. Et un vieux compagnon qui s'appelle Justin Adams. Et les Anglais, ils ont une certaine fantaisie, alors je ne vais pas tous les généraliser et trouver que tous les Anglais se ressemblent. La preuve, c'est qu'il y en a la moitié qui ont voté pour le Brexit et la moitié qui ont voté contre le Brexit. Voilà le grand sujet, parce que on est tombé exactement dans cette période de vote à ce moment-là. Le pays était tendu pour le moins. Alors, voilà ces amis anglais fantaisistes et puis qui ont baigné dans une ère de musique extraordinaire, légendaire, la musique anglaise quand même, du siècle dernier jusqu'à maintenant, avec toutes ces influences qui sont venues aussi des anciennes colonies anglaises, de l'Inde, des Caraïbes, énormément, et le reggae, et le dub, hein, qui s'est formé avec les influences anglo-saxonne, donc, et le punk qui est passé par là, nos compagnons, un des compagnons qui a enregistré avec nous, il a commencé dans la musique punk. Voilà donc tout ça, qui se rapproche de nous intimement aussi, notre culture, de notre génération, de je ne sais quoi d'autre, proximité géographique, histoire cruelle, partagée des empires coloniaux, hein. L'immense empire colonial anglais, l'immense empire colonial français, et ces deux-là qui sont battus ensemble. Oh, peut-être la musique, elle va finir par tout résoudre à la fin. Mais tout calmer et amadouer le mauvais sort qui s'est jeté sur le monde avec la guerre, avec terreur, toute domination, toute soumission. Donc voilà ce que nous sommes, des musiciens qui tentons d'amener une pierre moins violente au monde.
Venir au studio Real World, est-ce que c'est un lieu avec une âme, est-ce que c'est simplement un studio d'enregistrement, c'est-à-dire un local, un lieu absolument technique?
Sa vie, il y a des vibrations, il y a plein de gens qui sont passés là, il y en a qui ont laissé la douceur de leur âme, peut-être il y en a qui ont vendu leur âme, je ne sais pas. On passe par là avec tout soi-même, donc il y a des restes, il y a des gens du monde entier qui sont passés ici enregistrés. Pour faire peut-être des disques qui ont marqué l'histoire, d'autres qui sont restés oubliés, à tort ou à raison. Dans sa vie, il y a de la vibration, le bois a pris tout ça, puis il y a un bon équipement. J'avais un très bon piano pour jouer, qui avait une très belle sonorité. Je m'inquiétais un peu du piano, parce que je suis un pianiste un peu, disons, plutôt fragile, pas très sûr de lui, bien que le piano m'habite totalement. J'étais inquiet de ne pas trouver un compagnon. Et j'ai trouvé un bon piano qui a été un très bon compagnon pour cet enregistrement. sont les mêmes pianos. C'est le même piano qui a joué tout. Voilà, mais comme ils ont disposé beaucoup de micros, il est possible que pour une chanson, ils aient gardé que quelques micros, et pour l'autre, ils ont pris toutes les micros avec toutes les résonances. Voilà, puis dans le contexte sonore de la chanson, le piano a pris une autre dimension, les harmoniques sont plus libérées peut-être, ou la façon de jouer, plus forte, moins forte. Non, c'est le même piano qui a servi à tout.
Qu'est devenue cette fille du quartier Saint-Bruno ? On se saluait comme on le vent salue l'eau. Qu'est devenu celui qui inventa le mot pépite, celui qui marcha sur l'eau. Silice. Frêle membrane. Qu'est devenu Blackbird? On se saluait comment la nuit salue l'aube. Qu'est devenu celui qui inventa le mot musique, celui qui marcha sur l'eau. Blackbird. Blackbird. Peut-être s'est-il trop penché à la fenêtre du mystère, trop bercé au chant de la nuit pleine. Blackbird, marin d'un manège d'images en sein d'orge sacré.
Ça nous est familier, la solitude. Et il y a certaines mélodies, certains rythmes qu'on va chercher dans un tel degré de solitude que quelque part ça ne va pas troubler de jouer devant personne. Je ne veux pas dire que c'est idéal, parce que j'aime quand même les gens. Et la musique, à un moment donné, elle est faite pour être servie. Mais la solitude fait partie du chemin de vie d'un artiste, n'importe lequel, je crois. Et même si moi j'ai vécu une vie très très collective, c'est derrière la solitude que je suis allé chercher ce que j'ai donné dans ce disque-là.
Vous n'allez pas parler à leur place, mais vous les connaissez bien sûr très très bien. Est-ce que les autres membres de l'Ojo ont ce même rapport à la solitude que vous avez ?
Est-ce que je les connais ? Est-ce qu'on connaît quelqu'un ? Je ne suis même pas sûr. Je ne suis même pas sûr qu'à la fin de sa vie, on se connaisse soi-même exactement. Je sais que Nadia, elle peut pas faire quelque chose sans les autres. Dire moi toute seule, non, je peux pas. Il faut qu'il y ait quelqu'un, il faut que ce soit au moins deux. Ils ont fait des chansons, Nadia et Yamina, là particulièrement, c'est pâle. Et puis, jeudi d'octobre, j'ai fait les paroles de jeudi d'octobre pour Nadia. Mais Nadia ne peut pas faire toute seule. Elle a besoin des autres. Pour la musique ou pour autre chose. Donc c'est différent pour elle.
Toujours pour parler de ce collectif, là, de l'Ojo, ça fait plusieurs décennies que vous êtes ensemble. Qu'est-ce qui fait en fait le ciment de l'Ojo ?
On m'a posé cette question depuis longtemps, j'ai jamais su y répondre précisément. Je pourrais dire que c'est l'amour, mais ce sera insuffisant. Parce qu'il y a bien une autre question autre que l'amour dans une chose qui est musicale comme ça. C'est comme si l'objectif musical était tellement important qu'il nous amenait à trouver tous les moyens pour pouvoir être ensemble, trouver des moyens d'exister ensemble, de se comprendre, de s'apprécier, d'être solidaire, de se comprendre, parce que la vie collective, c'est difficile, le partage des différences, c'est compliqué, mais il y a une mission musicale qui nous attache, qui est l'objet d'une vie, pour la plupart de nous, et qui nous engage à nous approfondir pour approfondir notre relation collective pour pouvoir tenir ce cap-là.
Il y a deux nouvelles recrues. Alors, il y en a une qui n'est pas vraiment une nouvelle recrue, c'est le basson qu'on découvre au tout début de l'album avec Pas Pareil. Le basson, c'est Stéphane Coutable qui joue dans l'orchestre 310 Lunes. Un instrumental autour de l'univers de l'audio qui a été enregistré il y a quelques années, justement dans votre ancienne maison. Et puis, il y a un nouveau venu, peut-être, Alex Kochenek à la basse et à la contrebasse. Vous pouvez nous parler de ces deux nouveaux?
Oui, alors donc, Stéphane n'est pas un nouveau, puisqu'il participe au disque de l'audio. Depuis quel disque? Peut-être avait-il déjà joué sur l'une des siens? 2000, peut-être même avant. Je l'ai rencontré parce que je suis un grand amateur de basson. Moi-même, j'ai joué du basson. Et c'est le seul instrument, d'ailleurs, que j'ai approfondi, que j'ai travaillé. Et j'ai joué Haydn, et j'ai joué de la musique de chambre, et j'ai joué Messiaen avec ça, l'Ascension de Messiaen. J'ai appris beaucoup de choses en étant une particule d'un orchestre à une place et pas une autre, là où on entend plus les cuivres et les percussions, les premiers violons. On est à une nuance particulière du monde sonore. On n'est pas en face, on n'est pas derrière, voilà. J'ai aimé ça, et donc j'ai découvert le basson. J'ai joué les concertos pour basson de Vivaldi, qui sont sublimes. Je suis toujours attaché à cet instrument, méconnu, tout à fait méconnu encore. J'ai vu sur une pochette dernièrement, c'était sur un disque de Youssef Latif, on a entendu au bois, c'est écrit basson. Donc les gens même qui écrivent les pochettes, les notes de pochette se trompent sur le basson. Et Alex, bah c'est un nouveau Cam et Parti qui avait partagé la vie de l'Ojo avec pendant 18 ans. Et donc Alex est venu un petit peu effleurer le dernier Phonetic Flower, on commence à le connaître, on a fait un peu ce disque Phonetic Flower sans bassiste, sans assise, vraiment, il y a eu plusieurs bassistes qui sont venus. Et là, il a vraiment coopéré beaucoup à la construction des chansons, avec un minimalisme qu'on avait choisi un petit peu ensemble, de faire d'ailleurs très peu de contrebasse. J'avais le postulat au départ de faire un disque sans batteur. C'est pour ça qu'Yamina a appris à jouer la batterie, mais avec cette particulier de percussion, sauf l'invitation de Tony Allen pour deux chansons, d'utiliser simplement des sons de basse électrique et de clavier. Basse et pas de contrebasse. Il y a un petit peu de contrebasse sur une des chansons, minuscule. Alors ça, c'était un postulat fort de base. Pas de batteur et pas de contrebasse.
Et si minuscule, des vents couvrent d'un halo solaire de beaux rafiots rouillés. Tout est si minuscule, ce vieux piano bancal qui parle d'océan, et le reste il s'en moque. Certains qui dérobent le parfum. deuil de quelques roses. La vérité titube. Tout est si minuscule, car rien ne bouleverse. Un matelot naufragé qui construit une voile de plumes. Tout est majestueux. Tout est majestueux.
Plusieurs disques pour en faire un. C'est un parcours et il s'essaime sur plusieurs supports pour faire un film aussi. Puis c'est toute une vie, c'est toute une œuvre qui est ponctuée par tant de films, pour un réalisateur de films, tant de disques, et qui ont chacun leur prédécesseur et chacun leur successeur.
Il y a aussi une correspondance entre vous, Denis Péan, entre l'audio et puis Robert Wyatt. Dans Cinéma El Mundo, Robert Wyatt apparaît, il parle. Dans Phonetic Flowers, les premières notes du premier morceau, le morceau qui ouvre l'album, on est là dans l'univers de Robert Wyatt. On pourrait dire que c'est Robert Wyatt qui a composé la musique. Et dans 32 papiers, Robert Wyatt parle également dans un tout petit morceau. C'est un duo avec vous, vous êtes au piano, et puis lui parle, ça s'appelle Kiosko. Et ce que j'ai trouvé amusant, c'est que au tout début, j'ai pensé que c'était vous, mais vous, c'était un Denis Péan âgé qui parlait.
Oui, alors Robert, il avait déclaré il n'y a pas longtemps qu'il ne ferait plus de musique à partir de ses 70 ans. Que ça ne l'intéressait plus, ou qu'il avait tout dit, ou qu'il était lassé, un petit peu peut-être. Donc il m'a fait quand même l'honneur de bien vouloir enregistrer, alors qu'il avait déclaré qu'il ne ferait plus rien. Je ne sais pas par ailleurs s'il fait des choses ou pas. En tout cas, ça m'a touché beaucoup, et il a accepté de chanter cette petite phrase que je dis dans la chanson minuscule par ailleurs. Pour moi, c'est vraiment touchant qu'il ait dit une phrase en français de mon propre cru. Il l'avait déjà fait sur Cinéma El Mundo, mais là, qu'elle soit plus petite, je ne sais pas, comme si pour moi elle avait plus de poids. C'était plus une petite pierre très précieuse, voilà, et partagée avec moi tout seul au piano. C'est notre connivence, c'est nous deux. Puis c'est l'histoire entre nous, de la transmission aussi. C'est mon aîné, c'est mon éducateur. Moi, j'étais formé par d'autres gens. Mon oreille a été formée. Ces formateurs ont été lointains puisque je ne les ai pas trouvés très proches de moi. Je ne vivais pas dans un milieu culturel, je ne vivais pas dans un milieu où la musique avait de l'importance, où elle était professionnalisée aussi. Donc j'étais un peu seul, mais il y avait mes éducateurs. Lui, ça en a été un.
Et là, la phrase, c'est cette chanson qui flâne dans le jardin. C'est vrai que les chansons flânent dans le jardin, comme ça. Vous voyez des chansons passer, flâner dans les jardins dans lesquels vous vous promenez.
Au début, c'était un texte long. Je voulais dire qu'une chanson, elle a la couleur de par où elle est passée. C'est une chanson du désert. Si elle sentira le sable, si elle est du désert, elle sentira la ville, si elle est de la ville. Donc, et j'ai dit cette chanson, une chanson qui flâne dans le jardin, elle sent le lys et le jasmin. Après, je l'ai comparée à la mienne, celle qui serait vraiment mienne. La mienne, elle prend le pouls des solitudes, car je suis l'incertain qui dérobe le parfum ou deuil de quelque rose. Voilà, j'ai pensé que cette phrase, elle me ferait rentrer en connexion avec Robert qui, je crois, il comprend ce que je veux dire là. travers ça. Parce que nous, on récupère le parfum de n'importe quoi. On écrirait encore, on inventerait encore une musique en géol, on écrirait encore une musique dans le noir le plus complet. Et on tire le parfum de toutes les déceptions aussi, on tire le parfum de toute la destruction aussi bien. On arrive à s'en sortir, à flairer encore quand il y a quelque chose de vivant quelque part.
Vous êtes un observateur, hein. Enfin, ce que vous écrivez, vous l'avez observé, vous l'avez vu.
Je l'observe et pour tout dire, dans ce disque, je croyais n'avoir rien à dire en fait. Ces paroles, elles sont sauvées du néant. C'est pas tant que j'avais rien à dire, mais ce que j'aurais à dire me semblait pas assez intéressant. Parce que j'ai beaucoup dit déjà, bien que j'ai déjà eu une certaine science de l'épuration et de l'économie verbale, mais je m'approche presque du vide parce que ce qui m'intéresse, c'est j'ai tellement tamisé qu'il n'y a plus grand chose qui m'intéresse à garder. Donc je me suis approché du vide, ça m'a fait un petit peu peur, quoi. Donc je ne sais pas ce que c'était la question, mais...
je vous demandais si vous étiez un observateur. Si...
Ah, un observateur. Oui, bien sûr, j'observe. Je quête des scènes, je retrace des scènes qui me semblent importantes, qui sont comme des scènes légendaires, même quand elles mettent en scène des humbles, des situations assez humbles. Mes scènes sont assez magiques, hein, elles sont assez une part d'occultisme, une part de numérologie, il y a tout un bestiaire un petit peu particulier dedans. C'est un monde où le profane et le sacré s'articulent absolument ensemble, parce que je n'ai pas de prédilection pour l'un ni pour l'autre.
Chanson qui flâne dans le jardin, elle sent le lys et le jasmin. La mienne, elle prend le pouls des solitudes. Car je suis l'incertain qui dérobe le parfum au deuil de quelques roses.
On est en compagnie de Denis Péan. De l'Ojo, qu'on appelait à une époque l'Ojo Triban. J'aimais bien ce nom également. On est là pour parler du tout dernier album de l'Ojo, Transe de papier. Alors je vais faire une remarque tout à fait bête, mais la première écoute de cet album, je me suis dit que ça sonnait vraiment pas pareil. Alors vous allez me dire, forcément, parce que si on fait un album pour qu'il sonne comme ceux d'avant, ça sert à rien, mais il y avait vraiment quelque chose de différent. Et en fait, en le réécoutant, je me suis dit, ce qui est différent également, c'est la manière dont vous chantez, ou en tout cas, la manière dont votre voix, elle est captée. Il y a vraiment ce travail dans cet album.
Peut-être les arrangements étant épurés, elle a plus de place, son spectre, plus de place pour s'épanouir que dans un arrangement touffu, ce qui était le cas de phonétique, où c'était très touffu, très coloré, beaucoup de couches de couleurs, qu'on pouvait aimer hein, pour d'autres raisons, c'était riche. Là, c'est moins occupé, les spectres, peut-être j'ai plus de place pour ma voix grave. Ouais, Yamina a un jeu de batterie minimal aussi, il y a moins de coups. Ça laisse aussi plus de place. Peut-être j'ai été assez inspiré de chanter aussi, assez naturel, assez profond le faire ces jours-là, avec une prise de son qui était bien aussi à Real World. Ouais, c'est plein de choses qui m'échappent. Une évolution dans sa propre vie aussi, où on se mesure mieux, où on approche avec plus de sérénité son outil.
Votre voix, vous la travaillez ?
Non. Non, je travaille la musique beaucoup hein, pour savoir si je vais faire plutôt trois fois cet accord ou deux, et cette note-là, si je vais la répéter dans le deuxième couplet ou pas, combien exactement de mesures ça va faire et comment ça va s'articuler, ça je travaille énormément. J'ai cette science de l'algèbre, de la composition, vraiment du nombre des choses qu'il y a dans une chanson, du poids de tel mot qui va être dit trois fois, la voix à proprement parler, non, je ne travaille pas. Je devrais peut-être.
Vous parliez de batterie. Vous disiez que cet album, vous le vouliez sans batterie. Alors pourtant, vous avez reçu la visite à deux reprises d'un batteur, et pas n'importe qui, Tony Allen. Je crois que c'est peut-être une des dernières fois qu'il rentrait en studio en rentrant avec vous. Il intervient donc enfin, il joue sur deux morceaux. Mais là encore. La manière dont il joue, c'est aérien. On a l'impression que il touche à peine ses baguettes et que les baguettes touchent à peine les fûts. C'est vraiment l'impression qu'on a, quoi.
Ouais, ben j'ai fait cette rencontre avec cet homme à la fin de sa vie. Je dirais que c'est magnifique. C'est un sentiment que je peux considérer que moi-même, hein, parce que je sais pas quoi dire sur ce sujet. De toute façon, tu vas couper des fois.
Peut-être.
Qu'est-ce qui se passe avec Tony? J'ai aimé cet homme. Puis j'ai senti qu'il avait vraiment beaucoup d'affection pour les chansons qu'il a entendues. On devait se rencontrer. C'était mon aîné et c'est un homme magique. Et la qualité de son jeu, si on peut dire, bien sûr, on peut l'attribuer à sa qualité rythmique, à sa culture rythmique, qui tient aussi à son pays, à son origine, mais je pense que dans le fait que c'est un être magique, qui pèse certaines choses que ne pèse pas le commun des mortels.
Vous l'avez vu jouer, parce qu'on peut, il figure sur l'enregistrement, mais il aurait pu enregistrer ailleurs. Est-ce qu'il est venu dans les studios de Real World ou peut-être à Black Box, je ne sais pas. Est-ce que vous l'avez vu jouer?
Oui, il est venu, en fait, on a fait l'enregistrement à Paris. Parce qu'il ne voulait pas aller si loin que là, on était à Basse. Donc, on a fait ça à Paris, dans un petit studio au rez-de-chaussée, vieux studio qui est dans son jus. Un studio qui a servi beaucoup aux enregistrements de variétés françaises dans les années 70, si j'ai bien compris. Il y a un petit cadre avec un producteur à gros cigares, et puis Claude François, je crois. Il y a un piano préparé dans un coin, il y a un mélotron, il y a un vieux synthé modulaire. Et l'ingénieur du son, qui avait l'habitude de prendre le son de Tony dans cette pièce, était très très accueillant. Et il a fait un son d'une précision, d'une capacité. N'importe qui sait que c'est difficile de prendre un batteur. Et si le batteur me semble bien jouer, mais n'est pas suffisamment avec son instrument, avec le son de la pièce, on n'entend pas grand-chose en fin de compte. Mais là, il y a une définition du son de précision qui est due à un maître. Et un ingénieur du son qui a su le prendre aussi, qu'il connaissait. Seul, on n'est pas grand-chose.
Dans la rue passe l'innocence. Des opéras tactiles, cortège chinois d'ombre. Le jour sera beau, nos cerveaux à l'allure folle des chevaux. Allons sertir nos empreintes d'inouïes.
Dans ces histoires comme d'hab.
fourvure d'iris. Cortège chinois d'ombre.
Alors, il y a d'autres invités, des invités qui apparaissent, on va dire, furtivement. Il y a Jacques Courcil, trompettiste, qui figure dans le premier morceau. On l'entend bien, là. J'adore la manière dont se termine Pas pareil, cette mélodie là, obsessionnelle, qui, moi, m'évoque les mélodies obsessionnelles qu'on peut entendre en Afrique du Nord. Ça m'évoquait également un essaim d'insectes, un essaim d'abeilles également. Donc Jacques Courcil, il y a également Jean-Luc Thomas, flûtiste, qui figure dans le morceau Minuscule, où il leur avait pris quelques boucles. Alors, pas des boucles de cheveux, mais des boucles de musique.
Oui, donc quelqu'un m'a fait connaître Minimal Fanfare de Jacques Courcil, qui a été enregistré sur le label de John Zorn. Alors, je me suis dit, quand même, je ne connais pas ce monsieur qui est si extraordinaire à la trompette. Ça recherche des structures, des matières sonores. J'adorais ça, quoi. Donc, j'ai appris à connaître un petit peu ce grand monsieur de la musique qui est né à Paris, de parents antillais, mais qui a fait sa carrière dans le free jazz, beaucoup, dans les grandes époques du free jazz à New York. Et puis, qui a un autre versant de son activité, qui est la littérature. Et c'est un grand connaisseur de tout ce domaine littéraire, de la négritude, etc. Ça me plaisait, j'ai pris ça pour la chanson Pas pareil, je l'ai bouclé, ou j'ai demandé à quelqu'un de le boucler selon un petit peu comment je l'entendais. Au début, c'était fondu dans la musique, ça aurait pu ne pas devenir important, puis c'est devenu très important avec le mixage. Je me suis dit, c'est bête, je n'ai pas l'autorisation de faire ça. Il faut que je demande, il faut que j'honore aussi la personne à qui j'ai pris ça. Donc je me suis mis en quête de chercher ce fameux Jacques Courcil. Un ami journaliste m'a donné son numéro de téléphone. J'ai appelé Jacques Courcil, qui m'a répondu. Qui m'a dit, mais oui, bien sûr, il faut l'utiliser. Il m'a dit, mais n'hésitez pas à mettre des basses, à rajouter des basses sur le. Faites-en ce que vous voulez. Tout à fait charmant, accueillant. On sentait la voix du vieux monsieur, sage, posé. J'ai utilisé ça donc, c'est sur le disque, et Jacques Courcil est décédé 2 mois après qu'il m'ait donné l'autorisation de faire ça. Voilà encore une autre rencontre en dernier lieu, on va dire, au terme de quelque chose. Et il y a ce bouclage de notes, mais qui est tellement caractéristique. Et j'espère qu'ils vont engager des gens à connaître l'œuvre de Courcil comme moi je l'ai fait. Et Jean-Luc Thomas, je l'avais entendu jouer à plusieurs fois, je l'ai rencontré. Et puis à un moment donné, je connais un peu Bartabas de Compagnie Zingaro, cherchait un flûtiste. Il m'a demandé, par l'intermédiaire d'une voltigeuse, si je pouvais lui conseiller des flûtistes. J'ai conseillé Jean-Luc, qui a été embauché. Donc voilà, ça nous a liés pas mal, parce qu'il a quand même été très heureux de pouvoir vivre cette aventure. Puis à un moment donné, il m'a demandé d'écrire les notes de pochette pour son dernier disque qu'il avait fait avec des musiciens brésiliens. J'écris quelque chose, d'ailleurs ça n'a pas été retenu, je ne sais plus trop pourquoi, peu importe. Et il y avait des très belles harmoniques au début d'une chanson que j'ai captée. Et j'ai fait un tout petit brûlot sonore pour un moment suspendu dans Minuscule. J'ai toujours aimé les harmoniques de flûte. Au début, Quand j'ai eu un sampleur, j'utilise un sampleur depuis longtemps, depuis mon premier disque, depuis 1989. Et j'avais samplé des harmoniques de flûte avec une note tenue de flûte. J'avais fait un sample qui était organique pour moi, qui était magnifique, et je l'ai perdu. Depuis, je recherche à chercher ce son-là, je ne l'ai jamais retrouvé, ce son, cette alchimie.
Il y a des vidéos aussi qu'on peut voir sur le web, et il y a notamment, je crois que c'est cette vidéo là qui accompagne. Alors je ne sais pas si c'est les images accompagnent ou enfin c'est un ensemble, mais un ensemble quand même curieux. C'est pas pareil. Pas pareil. En fait, on voit ce qu'on prend d'abord pour un immeuble. Un immeuble en ruine, et en fait c'est un cimetière, c'est un immeuble de tombe. On voit des enfants qui jouent, il y a des gens qui travaillent, qui nettoient les tombes, etc. C'est à la fois horrible et puis magnifique. Je pense que ce sont des images qui ont dû être... ça ressemble à des cimetières italiens.
C'est à Valparaiso en fait, au Chili. Bon, c'est latin. Oui, voilà, bah, c'était assez discuté et sujet à un petit peu controverse dans le groupe, parce que d'aucuns trouvaient que c'était glauque, mais moi jamais j'ai pensé que c'était glauque. Peut-être parce que ça fait longtemps que j'ai mis la mort dans mon sac, et que peut-être ça ne m'effraie pas absolument, et que j'ai juste trouvé de la beauté dans le fait qu'il y avait de la vie. Ce monsieur qui transporte une échelle, cette dame qui nettoie les tombes, ces quelques oiseaux, ce chien, ces enfants qui jouent gaiement parmi les tombes, et puis ces couleurs, toutes ces fleurs, et puis ces tombes complètement inédites avec ces noms de gens qui ont vécu, et qui ont vécu intensément, qui ont donné tout à la vie, je ne les connais pas, et quelques lettres qui les nomment. Dans cette histoire du Chili aussi, qui est troublante et qui est grandement liée à la mort, puisqu'il y a eu des destructions massives liées à la dictature aussi à une époque. Il y a les films magnifiques de Guzman qui traitent de ce sujet. J'aime ces films de Guzman. D'ailleurs, en l'occurrence, j'ai pensé que j'aimerais bien qu'il dise un texte en espagnol sur notre prochain disque. J'ai essayé de le trouver. Voilà, si c'est possible, s'il a envie, ça lui plaît. Donc, oui, et puis bon, je ne reviens pas pareil. De quoi on ne revient pas pareil? Du voyage, naturellement, dit je ne reviens pas pareil. Pareil, de ces 3 semaines passées dans une yourte en Mongolie. Je ne reviens pas pareil de l'expérience, je ne reviens pas pareil de l'amour, je ne reviens pas pareil de l'âge, je ne reviens pas pareil de la mort, je ne reviens pas pareil de la vie. Voilà, donc c'est poussé à l'extrême dans ce cimetière. Pour moi, c'est beau, ça. Je plane en regardant ça. C'est plutôt lent. À un moment donné, il y a un petit panneau, illusion. Ça fait des petits chocs comme ça. Il y a le vent est en jeu, la lumière est en jeu, les couleurs sont énormément en jeu dans cette chose. Il y a des héros dedans. C'est des héros, c'est des petites gens qui travaillent au service des morts.
J'ai lu que cet album Transe de papier, en fait, il se vendait bien. Vous sembliez être heureux, vous avez fait un appel, l'Ojo a fait un appel à son public pour acheter l'album, pour le commander avant qu'il sorte, et puis c'est un album qui se vend bien, qu'on commence à avoir du mal à trouver chez les disquaires, chez les rares disquaires qu'il reste.
Ouais, bah ça c'est ce qui nous échappe dans les destins d'un disque. Bon, attention, il y a un grand travail, on est musicien mais on travaille avec des gens qui prépare tout, qui savent comment on déploie l'information autour d'un disque. Hein. C'est l'équipe de Clarisse, Maud, mes collègues que je cite, parce que ce sont des gens avec beaucoup de bravoure, de courage et d'instinct, d'intelligence, voilà. Donc ça se fait pas comme ça. Mais après, il y a des choses qui nous échappent. Il se trouve que ça s'est déclenché. Des fois, on est dans la vague, on est avec la vague, et tout va, il s'est répandu comme une traînée de poudre. Dans certains degrés, hein, bien sûr, ce n'est pas les 14 millions d'exemplaires de disques vendus de Michael Jackson, hein, entendons-nous, mais néanmoins, c'est une vibration qui a pris, voilà, ça fait plaisir, parce que la vie d'un artiste, elle est houleuse, elle est périlleuse, là, encore plus en même temps, elle est aléatoire, donc merci à tout celui qui en achetant un disque, ça existe encore les disques, jusqu'à quand, je ne sais pas. J'aime cette idée du disque, du cercle, qui rejoint le cirque, qui rejoint la roue rythmique, qui rejoint le mécanisme de l'horloge et la notion du temps, et toutes ces philosophies antiques qui ont parlé du cercle, de la spirale. Donc je remercie tous ceux qui ont participé, vraiment, qui forment une amitié, une constellation d'amis. Pour la plupart, je ne les connais pas, mais on se reconnaît, ils doivent se reconnaître quelque part, dans l'inconscient qui a déclenché certains mots, certaines phrases, certaines vibrations soniques.
Denis Péan de l'audio micro d'Alternant FM à propos du nouvel album du groupe Trans de Papier. Notez, chers auditeurs et auditrices, que l'audio sera sur la scène de la salle Paul Fort à Nantes le 5 octobre, invité par la Bouche d'Air, et le 7 octobre, sous chapiteau, au parc du Tabor à Rennes.
Yeah, 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 Trans de Papier.